Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Je tenais avant tout à vous remercier pour votre fidélité parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à écouter Hystérique et ça me touche beaucoup. Maintenant, vous pouvez vraiment m'aider en soutenant le podcast. Vous pouvez liker, partager, commenter, mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça me fait toujours très plaisir. Petit message avant l'introduction pour vous annoncer que je serai en congé maternité durant le mois de mai, mais je ne vous abandonne pas pour autant. Au contraire, je travaille en parallèle du podcast sur des rencontres physiques et des événements bien-être autour d'une problématique féminine et du yoga, pendant lesquels on pourra échanger pour de vrai. Pour ça, je vous invite à vous inscrire à la newsletter d'Hystérique en bas de la page d'information de cet épisode. Je vous y partage les prochains podcasts en exclusivité, mais aussi les événements à venir qu'on pourra partager ensemble. Je vous laisse sans plus attendre avec la suite du podcast et je vous remercie encore de votre fidélité. Bienvenue dans Hystérique, le podcast qui permet aux femmes de dire tout haut ce qu'elles vivent tout bas. Je m'appelle Clarisse, je suis professeure de yoga et j'ai créé ce podcast bienveillant qui autorise chacune à s'exprimer pleinement pour une parole plus libre et déculpabilisée. Parce qu'elle a longtemps été considérée comme une névrose féminine, l'hystérie représente aujourd'hui le symbole de la mauvaise prise en charge des troubles féminins par la société. Endométriose, fausse couche, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. C'est à seulement 9 ans que Raffaella s'enferme dans la spirale infernale de l'anorexie et développe des troubles du comportement alimentaire. Une maladie mentale malheureusement encore trop présente chez les jeunes filles. Puis, en grandissant, elle souffre de troubles digestifs sans parvenir à comprendre la cause. Maux de ventre et épuisement commencent sérieusement à la préoccuper sur sa santé. Raffaella consulte, se renseigne et comprend petit à petit que ces maux viendraient tout simplement du sucre. Sucre raffiné, rapide, lent, vous savez, ce petit ingrédient qui vient s'ajouter discrètement dans notre alimentation sans même que l'on s'en aperçoive. Une prise de conscience qui a permis à Raffaella de se lancer dans sa propre marque de produits sans sucre, ou plutôt au sirop de yacon, pour accompagner les hommes et les femmes vers une alimentation plus saine, sans frustration. Acceptation de son corps, troubles du comportement alimentaire, sucre, régime. Dans cet épisode, Raffaella nous donne ses meilleurs conseils pour une relation plus saine avec l'alimentation. Je laisse Raffaella vous raconter son histoire et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Raffaella!
Salut Clarisse!
Merci d'être présente aujourd'hui, je suis très contente de te recevoir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour commencer?
Oui, avec grand plaisir. Donc oui, je suis Raffaella, j'ai 31 ans et je suis la cofondatrice de Yacon & Co. Donc j'ai un profil plutôt classique d'étudiante en école de commerce qui se retrouve à Montréal et qui trouve un boulot assez rapidement dans une boîte de conseil où je suis restée pendant 6 ans. Tout en ayant en tête de toujours avoir cette envie, cette flamme de devenir entrepreneur un jour.
Ouais.
Mais je me suis dit, je pars dans le conseil, ça rémunère bien et au bout d'un an, je quitte pour monter ma boîte. Et ben en fait, je me suis fait complètement happer par le vortex de l'esprit entreprise, collègues, etc. Et je suis donc restée 6 ans. J'ai travaillé entre Montréal et New York et quand je suis rentrée en France, je me suis dit c'est peut-être le moment de me lancer dans l'entrepreneuriat sur un sujet qui me tenait particulièrement à cœur et dont on va parler aujourd'hui.
Ouais, justement, est-ce que tu peux nous présenter pour commencer ton entreprise Yacon & Co?
Donc Yacon & Co, c'est une alternative au sucre qui s'appelle le Yacon et qui permet de sucrer tous les plats du quotidien. Donc, c'est un remplaçant du sucre dans tous ses usages, dans les yaourts, en topping, pancakes, crêpes, dans les pâtisseries, mais qui n'endommage pas la santé. Donc, il y a 4 fois moins de sucre dans ce sucre en naturel que dans le sucre blanc, 3 fois moins de sucre que dans le sirop d'agave. Et il est très riche en fibres prébiotiques, donc en plus, il nourrit le microbiote intestinal. Okay. Aujourd'hui, on est commercialisé dans plus de 300 magasins bio et sur notre e-commerce, yacon.co.
Ok, trop bien. Bah justement, on va parler d'un sujet, moi, qui me tient pas mal à cœur. Déjà, le sucre, parce que C'est clair que je pense que je suis pas la seule. Il y a un vrai problème d'addiction au sucre de manière générale. Mais on va aussi parler de relation à la nourriture, de connaissance de son corps. Voilà, c'est des expériences, toi, que tu as vécues et qui t'ont amené à créer justement cette marque et d'aider à ton tour les personnes qui aimeraient réduire leur consommation de sucre, mieux manger, mieux prendre soin d'elles. Donc, on va partir un petit peu en arrière. Moi, j'aimerais savoir un petit peu quelle adolescente tu étais et quel était surtout ton rapport à l'alimentation, justement en grandissant et en prenant conscience de ton corps qui changeait.
Alors, j'étais une adolescente qui n'avait pas vraiment envie de grandir. J'ai jamais trop supporté le changement brutal. Et quand j'ai eu 9 ans, donc préadolescence, j'ai développé des troubles du comportement alimentaire. Donc, j'étais anorexique.
Mais 9 ans, c'est super jeune.
Ouais,
Je savais même
c'est
pas que
vraiment
c'était
très jeune.
possible aussi jeune, hein.
Ouais, bah, c'est vrai qu'effectivement, quand je regarde autour de moi, quand moi je me suis sortie de mon anorexie, donc vers l'âge de 14-15 ans, c'est à ce moment-là que les gens tombaient là-dedans. Et moi, j'en étais sortie à ce moment-là. Mais effectivement, c'est hyper jeune et je pense que c'est lié à mon enfance. En fait, j'ai un père médecin et ma mère était top modèle dans les années 80, ce qui fait que l'image qu'on se renvoie de son corps, de la beauté, etc. C'était très ancré dans ma famille. Alors, j'ai fait la paix avec ça. J'ai absolument aucun problème avec mes parents à ce propos-là. C'est pas de leur faute. Voilà, c'était le métier de ma mère, hein. Mais moi, du coup, en tant qu'enfant, c'est vrai que voilà, dans ma tête, je me faisais tout un monde du milieu du mannequinat. Il fallait faire telle mensuration, avoir un petit nez, avoir des beaux cheveux, etc., etc. Et du coup, j'étais une enfant plutôt sportive et gourmande, ce qui fait que j'étais pas ronde. Avec du recul aujourd'hui, quand je regarde mes photos, j'étais pas ronde, j'étais une enfant normale, mais moi, ça me convenait pas. Et dès l'âge de 9 ans, donc il faut quand même le faire.
Ouais,
Et
alors que 9 ans, t'es même pas encore formée. Enfin, c'est vraiment t'as encore un corps d'enfant, j'imagine.
totalement. Bah, justement, je pense que bon, les hormones commencent à un petit peu
Ouais.
travailler. Bon, j'ai eu mes règles plus tard, hein. J'ai eu mes règles beaucoup plus tard, même vers l'âge de 14 ans. Mais peut-être que justement, ça a été ralenti par mon anorexie, je ne sais pas. Parce que l'anorexie ralentit aussi la puberté. Mais de toute manière, l'anorexie, ce n'est pas déclaré d'un coup du jour au lendemain, j'ai arrêté de manger. Ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé.
Ouais, comment ça s'est passé du coup?
J'ai juste commencé à supprimer quelques aliments de mon alimentation, mais c'était vraiment anodin, hein. Je disais juste, bon, bah, j'arrête tout ce qui est très sucré, très gras. Donc, quelque part, quand on n'a pas un regard avisé, on se dit, bah, c'est plutôt pas mal parce que ma fille, je parle pour mes parents, par exemple, si je rentre dans leur cerveau, ils se sont peut-être dit, bah, c'est bien, ma fille fait attention à consommer des aliments sains. Donc, de prime abord, on se dit c'est plutôt quelque chose de positif. Et après, petit à petit, après avoir supprimé la plupart des choses sucrées et les choses grasses, j'ai commencé à réduire les quantités. Et pareil, ça s'est fait hyper progressivement. Dans un premier temps, je continuais à quand même participer aux petites fêtes d'anniversaire et ce genre de choses de mes copines. Mais à la place de manger 3 crêpes, j'en aurais mangé 2, quoi. Mais progressivement, je diminuais, jusqu'à, en fait, pas complètement arrêter de manger, mais j'arrivais plus jamais à satiété, en fait. Quand je sortais de table, j'avais faim. Dans la journée, j'avais faim. J'avais tout le temps faim.
Ouais, c'était devenu normal, quoi.
Ouais, c'était vraiment rentré dans mon quotidien. Et bah quand on est enfant, on ne sait pas trop que c'est ça. On a très envie de ressembler un peu aux choses qu'on voit dans les magazines. J'étais pas une enfant très féminine. Moi, j'étais hyper garçon manqué, rentre dedans. Et je regardais mes copines qui, elles, étaient toutes jolies, toutes apprêtées, qui plaisaient aux garçons déjà. Parce que bon, bah, quand on a 9 ans, il y a déjà des histoires un peu d'amour, quoi. Et moi, je n'étais pas du tout dans tout ça. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a entraînée dans l'anorexie, c'est l'envie de ressembler aux autres, un âge où on est particulièrement vulnérable, où on a particulièrement envie de blend in, comme on dit en français, de vraiment
Rentrer dans
être.
le moule.
Voilà, c'est ça. Parce que je pense qu'à l'adolescence, c'est la priorité, c'est surtout
Complètement.
faire partie Préadolescence et adolescence, c'est faire partie d'un groupe, faire comme les autres. On est très influencé par son entourage et son entourage proche, c'est l'école, il y a des petits groupes qui se forment. Et moi, voilà, je voulais plus ressembler aux autres, en fait, à cet âge-là.
Et comment ça évolue? Alors, tu dis que tu t'en es sorti vers les 14 ans. Comment ça évolue de tes 9 à 14 ans? Est-ce que t'en parles à ton entourage? Est-ce que tes parents remarquent quelque chose?
Père est médecin, donc lui, il a commencé à prendre conscience qu'il y avait quand même un souci.
Ouais.
Plus manger de sucreries, ce genre de choses pour un enfant, c'est bien de pas trop en consommer, mais bon, c'est pas très naturel à cet âge-là.
Ouais, d'être trop
Et
dans le contrôle, c'est clair que à 10
exactement,
ans.
c'est exactement ça. Et ma mère aussi a constaté qu'il y avait un truc qui allait pas, et donc je suis allée consulter des psychiatres, mais j'ai beaucoup changé. Et ça, c'est vraiment un conseil que je peux donner à toutes les personnes qui sont dans cette situation ou qui ont des enfants dans cette situation. C'est pas parce que le premier psychologue ou médecin qui accompagne, qui vous accompagne ou qui accompagne un enfant, ça marche pas, que ça marchera pas avec tous les autres. Moi, j'ai changé, j'ai dû aller voir trois ou quatre psychiatres. Et c'est que la dernière sur laquelle je suis tombée, qui était une pédopsychiatre, qui était plus adaptée à moi. Déjà, il y avait surtout des hommes hein, à l'époque. Enfin, moi, je suis de 91, donc. Voilà, dans les années 2000, c'était encore une profession, les médecins, c'était encore très masculin. Et il y avait beaucoup d'hommes que je suis allée consulter et je trouvais que, enfin, dans ma tête de préadolescente, je me suis dit, ils comprennent rien, quoi. Vraiment, ils comprennent rien à ce que je suis en train de vivre. Tout ce qu'ils veulent, c'est que, c'est soit me donner un cacheton, parce que l'anorexie, c'est aussi parfois un trouble, en fait, de dépression. C'est une manière de montrer aux autres que ça va pas bien. Ça se traduit en la manière dont on se nourrit. Mais la nourriture, c'est la vie aussi. Donc, en fait, quand on arrête de se nourrir, c'est qu'un peu, on se laisse mourir à petit feu. Donc, ça peut couver une dépression aussi.
OK.
Donc, très rapidement, quand on va voir des psychiatres, ils veulent vite nous mettre sous cacheton. Et bon, mes parents, c'était hors de question qu'à l'âge de 9, 10, 11 ans,
Ouais.
je prenne déjà des antidépresseurs, même si j'ai conscience que certaines personnes n'arrivent pas à opérer sans ça. Et je suis pas non plus contre les antidépresseurs, mais en tout cas, dans mon cas, c'était un petit peu exagéré. Jusqu'au moment où je tombe sur une pédopsychiatre qui était super et que j'allais voir une fois par semaine et qui a fait un vrai travail de fond avec moi pour trouver un peu la source de ce mal-être. Et on a couplé avec aussi une nutritionniste, une diététicienne nutritionniste qui était aussi absolument superbe. Et c'est elle qui m'a fait aussi un déclic parce que elle m'a expliqué, on va pas te faire grossir, parce que la hantise d'une personne anorexique, c'est qu'on lui dise, tu vas prendre du poids. Parce
Ouais.
que c'est tous les jours, on se bat pour pas prendre du poids, voire en perdre, et quand on en perd, on est trop heureux. Alors si en plus on va voir un médecin qui nous dit
Ruiner
bah,
ses efforts.
voilà, c'est ça, exactement. Bah, le résultat fait qu'on se dit j'ai fait tout ça pour rien. Et elle avait une approche qui me correspondait beaucoup plus, qui s'appelle c'est Docteur Slama, hein, pour ceux qui nous écoutent, Docteur Slama à Paris.
À Paris, OK.
Vraiment extraordinaire, qui en fait elle m'a plus dit, écoute, on va juste changer les aliments que tu mets dans ton assiette. Donc, elle me disait, bah, dans chaque assiette, tous les jours, dois avoir une protéine, des glucides, et tu as le droit à un dessert aussi, un yaourt. Et tous les jours, il faut juste que tu t'assures de manger ces éléments-là. Après, voilà, je te force. Elle ne m'a pas forcé la main.
Elle te parlait pas de
Et de façon.
quantité, elle te parlait pas de. C'était vraiment juste de
Ouais.
s'assurer que tu aies tes repas et qu'ils soient constitués de tels et tels aliments, quoi.
Tout à fait, c'est ça. Parce qu'en fait, quand on est anorexique, du coup, évidemment, il y a certains aliments qu'on supprime, qu'on se refuse totalement,
Ouais.
notamment tout ce qui est sucre, etc. Et ça va reboucler avec Yacon & Co., puisque justement, on propose un sucre sain. Et on supprime. Non. On a réputation d'être calorique et peu sain. Et donc, du coup, elle va trouver un moyen de te faire réintégrer dans ton alimentation certains aliments que tu avais bannis en petite quantité et tout doucement, progressivement. Et je devais remplir un petit tableau. Donc, il y avait un côté très ludique aussi parce que ça te permet de marquer vraiment tout ce que tu manges dans la journée. C'est un peu comme un espèce de carnet. Un petit carnet de santé, je ne sais pas si tu en as eu un comme ça, mais moi, souvent, on m'a offert des petits carnets où, tu vois, je peux écrire tous les jours un petit mot, une pensée qui me passe par la tête, et puis qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire demain, quels sont mes objectifs pour 2000, à l'époque, on était en 2003. Enfin bref, un petit carnet comme ça, c'était plutôt bien amené, je trouvais. Et c'est comme ça que je m'en suis sortie progressivement, mais c'était beaucoup de travail de suivi avec ces médecins-là, beaucoup d'aide de mon entourage. Heureusement, j'avais une meilleure amie d'enfance qui s'appelle Juliette et qui m'a suivie depuis la plus tendre enfance et qui était vraiment là à mes côtés pour aussi m'aider dans le contexte des vacances, par exemple. Parce que souvent, il y a des rechutes dans la maladie quand on va plus voir ces médecins. Et ça, c'est souvent pendant les grandes vacances d'été où il y a 2 mois. Voilà. On voit. Alors, aujourd'hui, ça doit être différent parce qu'il y a les visios pour faire ça en distanciel. Mais nous, mon époque, en 2000, les visios, ça n'existait pas. Donc, si je n'allais pas consulter directement chez les médecins que je voyais personne pendant un temps. Donc, pendant 2 mois, ne pas voir un psychiatre ou une diététicienne qui nous suit quand on est atteinte d'anorexie, ça peut avoir des dommages
C'est long, ouais.
catastrophiques.
Ouais, ok. Et donc tu replongeais un peu par phase dans cette maladie, quoi.
C'était pas un long fleuve tranquille, ça a pris 3 ans au total.
Ouais, c'est
Et à chaque
lent,
fois,
c'est à petits pas.
voilà. Et à chaque fois qu'il y a des phases de vacances, effectivement, voilà quoi. On parle plus à une personne professionnelle et on est les démons reviennent.
Ouais, je vois. Ok,
Voilà.
et donc un jour, tu peux dire que vers tes 15 ans, tu t'en es complètement sorti, tu t'en es libéré de ces troubles, ou parce que j'avais déjà fait des épisodes avec des anciennes anorexiques qui disaient que bon bah ça nous suit quand même toute notre vie, c'est-à-dire que on a tellement compté les calories, on a tellement fait attention, on a tellement été obsédé un jour par ça que c'est dur d'en sortir à 100%, quoi.
Alors effectivement, je pense que c'est très difficile de s'en sortir totalement, surtout pour les personnes qui ont été anorexiques plutôt, entre guillemets, tard, mais en fait c'est pas tard, c'est le moment où c'est le plus courant, donc dans l'adolescence, 16, 17, 18 ans,
Oui.
et dans la vingtaine. Je pense que là c'est d'autant plus difficile parce que le cerveau est totalement construit, et il est construit peut-être sur des moins bonnes bases, parce qu'on a ces bases de... Je dois être forcément très fine ou pas consommer tel aliment. Donc, il y a des réflexes beaucoup plus difficiles à contrecarrer. Comme moi, j'étais enfant, entre
Ouais.
guillemets, mon cerveau n'était pas entièrement terminé et j'ai pu être modelée un petit peu, je pense, par ces médecins que je suis allée voir pendant plusieurs années. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je dirais, ce qui me reste de l'anorexie, c'est 3 choses. La première, c'est que j'ai un radar à personnes qui ont des TCA, du coup, des troubles du comportement alimentaire.
OK.
Je les vois à 3 km et peut-être avant même qu'eux-mêmes en aient conscience qu'ils sont en train de tomber dedans.
Ouais.
Parce que souvent, comme je disais, ça se traduit juste par des petites choses. Ah ben non, je vais pas prendre de dessert. Ah ben non, cet aliment-là, je le consomme pas. Mais c'est pas du tout de la faute de la personne. C'est parce qu'on est dans une société où, en fait, consommer des aliments qui font prendre du poids, c'est mal vu. Donc, on a tous des choses à régler à ce propos-là, parce que dans toutes les publicités, on a été matraqué aux produits 0%, sans sucre. Alors, sans sucre, c'est plutôt bien hein, par rapport au discours que moi je tiens au quotidien, mais vraiment sans gras, sans gourmandise.
Ouais.
On a tous vu des tailles fines dans nos frigos de toute notre enfance parce que peut-être nos parents, nos mamans ont consommé pour perdre du poids. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est dans la société. Donc je pense que c'est très difficile de complètement s'en défaire. Donc ça, c'est la première chose. Donc j'ai un radar pour voir les personnes qui sont en train de tomber dedans ou qui sont dedans. Ensuite, la deuxième chose, c'est que du coup, c'était tellement horrible d'être anorexique et de se priver qu'aujourd'hui, j'ai plus jamais envie de me priver de choses. Et ça reboucle encore une fois avec Yakonenko, dont on parlera tout à l'heure peut-être plus en détail. C'est que l'idée, c'est pas de se priver du sucre, c'est juste de consommer un meilleur sucre pour la santé. Et donc, moi, la privation, ça me... Même dans nos équipes, donc maintenant, on a... chez Yakonenko, on a plusieurs employés, etc. Il y a souvent des alternantes, etc., qui sont très jeunes et qui me disent bah, « Moi, je consomme que du 0% de matière grasse parce que la matière grasse, c'est pas bon. » Et je fais un travail de fond en leur expliquant « Si, c'est très bon la matière grasse. » Et justement, si tu retires la matière grasse, tu retires aussi les protéines qui sont hyper importantes pour construire tes muscles. Enfin bon, bref, il y a un côté… voilà, j'ai plus jamais envie de me priver et j'ai envie de me faire plaisir parce que la nourriture, c'est la vie et que c'est trop agréable et que voilà, j'ai été trop traumatisée pendant 3 ans de ma vie où je ne me suis pas fait plaisir. Aujourd'hui, ça…
plus jamais. Ouais.
Et la troisième chose, effectivement, c'est qui me reste de l'anorexie, c'est cette envie d'aider les autres et dans tout le processus de guérison aussi, parce que c'est très, très difficile quand on a été très maigre de voir son corps changer, de voir qu'il faut changer de vêtements, donc peut-être passer du 36 au 40 ou du 34 au 40, qui est une taille normale, le 40. Hein. Et ça fait peur. Et dans tout le processus de guérison, ce qui est difficile, c'est le regard des autres aussi qui nous le font remarquer. Ah, bah dis donc, la cantine est bonne ou ce genre de choses. Il peut y avoir ce genre de remarques et les gens ne le font pas du tout méchamment. Mais c'est très maladroit.
C'est maladroit, ouais.
Voilà. Donc ça, pour le coup, c'est quelque chose que je fais aussi au travers de Yakonenko. Je suis très proche avec certaines clientes qui sont atteintes de troubles de comportement alimentaire et j'essaye autant que je peux, hein, je ne suis pas non plus psychiatre, hein, de les aider dans leur transition.
Voilà. D'accord.
Donc ça, c'est les trois éléments qui font que qu'il me reste de l'anorexie, mais je pense qu'en termes de troubles purs, je ne pense pas que je retomberai dans l'anorexie dans ma vie, enfin, j'espère pas, à moins d'être vraiment mal à un moment donné, mais je pense que pour le coup, je peux dire que je m'en suis sortie.
Ouais, et comme tu dis, t'as été prise en charge au bon moment, de la bonne manière. Et c'est drôle ce que tu disais sur le fait de changer de médecin, de psychiatre, etc. C'est beaucoup revenu dans les épisodes, même pour parler, tu vois, de maladies gynécologiques, etc. Il faut vraiment pas avoir peur de challenger aussi les médecins qui sont là pour nous aider, bien sûr, mais jusqu'à trouver le bon, quoi, ou la bonne qui nous comprend et avec lequel on se sent bien. Donc je pense que ça, c'est vraiment important de le retenir et de le souligner. Et alors justement, dans ta vingtaine, quand tu as grandi, justement pendant tes études, etc., donc j'imagine que tu n'avais plus de troubles du comportement alimentaire, mais tu m'as parlé de troubles digestifs. Est-ce que déjà tu te sens mieux dans ton corps à ce moment-là?
Alors, dans la vingtaine, je me sens mieux, mais la vingtaine, c'est un peu un âge un peu bâtard, entre guillemets, parce qu'on sort tout juste de l'école, mais encore l'effet groupe, parce que quand on fait des études supérieures ou ce genre de choses, on va se faire des bandes de potes, etc. Donc, il y a encore beaucoup de... Je pense que c'est un peu fort de dire ça comme ça, mais en fait, c'est vraiment ça qui se passe. Je pense qu'il y a un peu de la compète qui va avoir le meilleur copain, la meilleure copine, qui va sortir dans les soirées les plus stylées, qui va boire le plus d'alcool sans être en coma éthylique. Enfin, je trouve que dans la vingtaine, c'est un âge encore où on a beaucoup de choses à se prouver. Et je pense que du coup, c'est encore un âge un peu étrange, mais je me sentais bien encore. Déjà à ce moment-là, je me sentais quand même bien dans ma peau. Même si du coup, souvent ça arrive ça quand on se sort de l'anorexie, c'est que c'était plus un trouble de l'alimentation, mais je me suis mise à faire quand même pas mal de sport.
Ouais.
Pour éviter de trop stocker, quoi.
Ouais, avoir un peu le contrôle sur ce qui se passait, quoi.
Voilà, on passe d'un type de contrôle à un autre.
C'est ça.
C'est vraiment ça.
Bon, ça peut être sain, hein, mais il ne faut pas que ce soit à l'extrême, quoi. Et pour les mauvaises raisons.
Exactement, c'est ça. Exactement, il faut le faire parce que ça nous fait plaisir aussi personnellement. Maintenant, typiquement, le sport, c'est vraiment quelque chose qui est dans mon quotidien et qui me fait vraiment du bien psychologiquement, qui me permet de libérer mon esprit. À partir du moment où on trouve qu'en sortant du sport, on est beaucoup plus relax et beaucoup plus à même d'aller vers les autres et d'être empathique, etc., c'est qu'on sait que le sport a le bon effet sur nous. Si au contraire, en sortant du sport, on se dit encore « j'ai pas assez performé, j'étais nul » et on est dans un cercle vicieux négatif, c'est que on n'a pas encore trouvé la bonne méthode de se défaire de son côté contrôle et de sa maladie, s'il y avait maladie avant, quoi.
Ouais, complètement.
Mais les problèmes digestifs, ils sont arrivés un peu plus tard. Ils sont arrivés plutôt sur la fin de ma vingtaine, quand j'habitais à New York.
Ok, quand tu travaillais du coup.
Ouais, j'étais déjà dans la vie active, exactement.
Alors comment il se traduisait, ouais, comment c'est arrivé
En fait, parlons franco, j'avais beaucoup de mal à aller aux toilettes, ce qui faisait que j'avais le ventre tout le temps gonflé. Et à la fin, carrément des crampes. Donc, c'était hyper désagréable. Je pense qu'évidemment, il y a aussi le contexte de quand on arrive dans la vie active, on bouge beaucoup moins, on est beaucoup plus assis devant son ordinateur toute la journée, etc. Quand on est dans le milieu dans lequel moi j'ai travaillé, donc c'est un milieu très travail d'ordinateur, j'appelle ça. Donc, je pense qu'il y avait de ça. Mais quand même, sur mon alimentation, comme j'étais devenue végétarienne, j'ai beaucoup compensé pour arriver à satiété sur les glucides. Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans notre alimentation, qui nous permet d'arriver à satiété, donc d'être calé dans la durée et se sentir bien, de ne pas avoir tout le temps des fringales, c'est soit les protéines. Et c'est vrai que les protéines animales sont assez puissantes quand même en termes de satiété et d'énergie qu'elles apportent. Il y a les glucides, donc les glucides, c'est riz, pain, pâtes, pommes de terre, par exemple. Et puis, il y a les lipides, donc c'est tout ce qui est gras. Ça peut être du mauvais gras, entre guillemets, je mets vraiment entre guillemets, parce que bien évidemment qu'il ne faut pas s'en priver, parce qu'il y a d'autres bénéfices dedans. Mais tout ce qui est fromage, tout ce qui est charcuterie, etc. Et puis, il y a bon gras, qui est entre guillemets, encore une fois, qui est plus le gras qu'on peut trouver dans les oléagineux, dans les graines, noisettes, noix de cajou, noix en général, et puis dans l'avocat et dans les huiles. Voilà, donc ça, c'est les nutriments les plus importants de l'alimentation qui permettent d'avoir des repas équilibrés. Et sauf que quand on arrête de consommer de la viande, donc soit animale, soit du poisson, et ben en fait, on a d'un coup une source d'énergie qui disparaît. Donc, on a tendance à sauter un peu plus facilement sur les glucides, qui ont la réputation quand même d'être... C'est la source principale. Les glucides sont la source principale d'énergie pour le corps. Hein. Ça, c'est important de le noter. Le cerveau se nourrit énormément des glucides. Donc, comme je disais, riz, pain, pâtes, pommes de terre. Et on pense très peu aux protéines végétales qui existent aussi. Donc, tout ce qui est haricots, lentilles, etc.
Ouais, légumineuses.
Ouais, tout à fait. Et en fait, c'est pour ça que moi, je conseille toujours, quand on devient végétarien, il vaut mieux être au début au moins accompagné par un ou une diététicienne qui pourra nous dire, voilà, là, tu viens de supprimer le poisson, du coup, mets un peu plus d'haricots rouges dans tes plats ou de lentilles ou... Voilà. Et comme ça, tu verras que tu arriveras à satiété rapidement sans avoir à te jeter sur des glucides purs, donc pâtes, etc. Mais moi, comme je ne me suis pas fait accompagner, j'ai arrêté du jour au lendemain la viande et le poisson et j'ai commencé à un peu plus consommer tout ce qui est donc pâtes. J'avais beaucoup de plats à base de pâtes avec des super sauces, hein, par contre, avec des légumes et tout ce qu'il fallait. Mais ça me donnait des pics de glycémie. Comme tout le monde, quand on consomme des féculents et des glucides en général, on a un pic de sucre dans le sang. Les glucides, ce sont des molécules de glucose qui sont imbriquées les unes aux autres et nos enzymes digestives nous permettent de les séparer. Et quand ils sont séparés, ça devient des glucides simples, soit des sucres simples, soit les mêmes types de molécules qu'on a dans le sucre de table. Donc, quand on consomme du riz, du pain, des pâtes, on a un pic de glycémie, tout simplement. Et l'insuline est l'hormone qui vient stocker notre sucre dans les graisses et dans les muscles pour qu'il puisse être utilisé après au cours de la journée. Mais du coup, ce pic de glycémie suivi d'une rechute, ça provoque des problèmes de fatigue. Donc, moi, j'avais des problèmes de fatigue chronique. Donc, vraiment, carrément, j'avais besoin d'aller dans les toilettes de mon boulot pour faire une power nap, une petite sieste de 10 minutes. Pour,
ah oui, d'accord. Ouais. C'est pas mal.
En cachette, quoi. Et l'autre effet secondaire, c'est qu'en fait, les sucres, en général, ça détruit le microbiote intestinal. Et le microbiote intestinal, c'est lui qui est en charge. C'est des milliards de bactéries qui sont dans tout notre tube digestif qui nous permettent de digérer. Donc, quand on consomme riz, pain, pâtes à outrance, et des sucres simples de table aussi, pâtisserie, etc., eh bien, on détruit petit à petit les bonnes bactéries qui sont donc en charge de notre digestion et donc de dégrader les aliments, ce qui fait que j'avais du mal à aller à la selle, voilà, et que j'avais des problèmes de digestion et des douleurs.
Ouais, mais ça, j'imagine que tu l'as découvert aussi petit à petit, parce que c'est pas évident aussi de comprendre la cause de ces ballonnements, de ces problèmes digestifs, etc. Tu as dû aller consulter ou tu t'es renseigné? Comment t'as fait?
Ouais, en fait, déjà, je voyais à New York, c'était très à la mode. Je ne savais pas à tout le monde de porter ce genre de boîtier, parce qu'en fait, quand on a surtout des troubles de comportement alimentaire, après, on peut devenir un peu zinzin avec un truc comme ça, parce que c'est un petit boîtier qui est une microfibre qui passe sous la peau, qu'on peut trouver en pharmacie et qui mesure notre taux de sucre dans le sang constamment. Donc, on peut voir chaque aliment qu'on consomme dans la journée, si ça élève notre glycémie ou si notre glycémie reste stable. Et il se trouve qu'en mettant ce petit boîtier, j'ai constaté que les journées où je me sentais le plus fatiguée et les journées où j'avais le plus de problèmes de digestion, c'était les journées où je mangeais beaucoup de sucre en général. Et c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Je pensais, moi, parce que c'était très à la mode aussi à cette époque de dire que c'était le gluten qui était à l'origine de tous les maux de ventre. Et en fait, parfois, les gens confondent gluten et glucides. Donc, on peut ne pas avoir une intolérance au gluten. Alors, je conseille d'aller consulter quand même. Moi, j'étais allée consulter des gastro-entérologues. Et quand ils ont fait des analyses sur moi, ils ont dit, écoutez, vous n'avez rien, pas d'allergie, pas d'intolérance. Merci, madame, au revoir. Donc, ça, c'était plutôt une bonne nouvelle qu'il n'y avait rien de grave. Mais en tout cas, moi, ça ne changeait rien à mon problème. Je savais que j'avais un problème. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que les glucides pouvaient être à l'origine des maux de ventre et des problèmes de fatigue.
Ok. En tout cas sur moi. Et du coup, quand est-ce que tu décides de changer ton alimentation, et surtout, qu'est-ce que tu fais? Parce que j'imagine que tu ne supprimes pas non plus les glucides du jour au lendemain. Il ne faut pas non plus les supprimer. Comme tu disais, ils nous sont indispensables. Donc, comment on rééquilibre tout ça?
Je ne les ai pas supprimés, les glucides. J'ai juste essayé de trouver des alternatives.
Ouais.
Donc, je suis quand même assez gourmande. Je ne consomme pas énormément de sucre naturellement, mais je suis quand même assez gourmande. Donc, je n'avais pas envie le matin, par exemple, de consommer un petit-déj salé. Ça, c'était inconcevable pour moi. J'avais envie d'avoir le goût sucré le matin. Et du coup, j'ai regardé toutes les alternatives au sucre qu'il y avait et celles qu'il y avait à proximité de chez moi où j'habitais à New York, il y avait du sirop d'agave. Et le sirop d'agave, en fait, il est composé de 75% de sucre simple et c'est du fructose, donc c'est très mauvais pour le foie. Mais ça, je ne le savais pas à l'époque. Et ça reste des sucres simples, donc ça ne règle pas le problème de digestion, en fait.
Ouais, je trouve qu'on nous le présente vachement comme l'option ultra saine par rapport au sucre, quoi.
Oui, parce que c'était... je pense, moi je dis toujours qu'on progresse d'année en année dans les découvertes. Au départ, c'était juste le sucre blanc. Après, il y a eu le sirop d'agave. Après, il y a eu le sucre de coco. Mais pareil, le sucre de coco, il y a 80% de sucre simple dedans. Donc, ce n'est pas une solution au problème du sucre.
Et le miel aussi.
Le miel aussi. Alors, le miel, il y a 90% de sucre simple dedans. Donc, c'est pareil, ça reste une consommation... de gourmandise.
Ouais.
Alors après, il faut pas totalement
diaboliser non plus. Ouais.
Voilà. Mais moi, je dis toujours aux gens, c'est dans ce cas-là, consommer du miel et du sirop d'acone. Le miel, ou sirop d'acone, j'expliquerai un peu plus tard ce que c'est. Mais le miel pour la gourmandise, parce que c'est quand même mieux que les sucres raffinés. Et le sirop d'acone, si vous souhaitez supprimer, ralentir, diminuer votre consommation de sucre au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, on consomme 4 fois trop de sucre par jour. L'OMS conseille 25 grammes par jour et on en consomme en moyenne 100 grammes en France. Voilà, donc moi, je dis toujours par touche, mettez du miel par touche, voilà, par-ci, par-là, si vous voulez vous faire un petit plaisir. Et puis, pour les consommations un peu plus systématiques, le sirop diacone est une bonne option avec 4 fois moins de sucre que le miel, du coup, et que le sucre de table.
Ouais, bah alors justement, maintenant que tu nous as bien teasé, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le diacone ?
Alors, le diacone, c'est une alternative au sucre qui ressemble au sirop d'érable, visuellement, ou au miel.
Ouais, assez foncé.
Ouais, foncé, très fluide, c'est un sirop, hein, donc c'est vraiment format ultra gourmand. Mais qui a 4 fois moins de sucre que le sucre de table, ou 4 fois moins de sucre que le miel, et qui est très riche en fibres prébiotiques, justement par rapport à un problème de digestion. Les fibres prébiotiques, c'est la nourriture de notre microbiote intestinal. Donc, c'est ce qui va permettre, en fait, à notre bonne bactérie de se nourrir. Donc, les sucres simples tuent le microbiote intestinal et les fibres prébiotiques nourrissent le bon microbiote intestinal. Qui fait que quand justement on a un peu un rééquilibrage à faire, le sirop diacone peut être aussi intéressant à consommer pour repeupler son microbiote intestinal en combinaison avec des probiotiques qui sont contenus dans kombucha et kéfir. Donc je reviens au sirop diacone. Donc le sirop diacone, c'est donc une alternative au sucre saine, 100% naturel, à base d'une plante qui s'appelle la poire de terre ou le diacone, et qui pousse pour le moment uniquement au Pérou. Et nous, on est en train de créer une filière française de diacone pour qu'en 2024, on puisse vous offrir un sirop diacone 100% made in France. Mais pour le moment, pour faire quand même connaître le produit, et parce qu'on ne veut pas attendre de proposer ce produit extraordinaire aux mille vertus aux Français, on a décidé de quand même commencer à le commercialiser et ça fonctionne super bien dans tout type de préparation. Et ce qui est super avec le sirop diacone, c'est qu'on ne change pas les habitudes des gens, on change juste le produit. Dans le sens où dans les pâtisseries, on met autant de sirop diacone qu'on mettrait de sucre blanc, par exemple. Donc, on ne change aucune habitude. Il n'y a pas besoin de faire des calculs mathématiques très compliqués. si on fait des gâteaux ou quoi que ce soit, on met autant de sirop diacone que ce qu'on mettait de sucre normal. Sauf que à chaque portion, on consomme 4 fois moins de sucre que dans le sucre normal. Et ça,
c'est pas négligeable.
Magique. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du fait qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire qui viennent vers nous. C'est parce qu'en fait, nous, on leur propose reprendre goût aux aliments qu'ils ont supprimés. Donc, ils ont souvent supprimé tous les aliments sucrés. On s'en supprimait souvent de l'alimentation des personnes anorexiques, surtout, c'est ce que je connais de mieux. De remplacer avec une alternative moins calorique. Ça plaît malheureusement. Moi, je déteste le dire, mais c'est vrai qu'il est moins calorique que le sucre normal et qu'il a quand même un goût super gourmand. Donc, on reprend plaisir, vraiment, on reprend goût à la gourmandise sans se dire qu'on consomme quelque chose d'interdit, en fait. Voilà. Ça permet de dépasser le côté interdit.
Mais c'est... Parfois, on se... c'est dingue, du coup. Tu reçois des retours de clientes, de clients qui ont des troubles du comportement alimentaire et qui te disent que ton produit les a aidés, quoi.
Ouais, totalement. Parce que nos premières livraisons qu'on a faites il y a un an et demi, on les a faites en personne à Paris. Et quand on donnait donc le colis aux personnes, elles se confiaient par elles-mêmes. Elles disaient merci d'avoir lancé un produit. Parce que du coup, on a le sirop diacone, mais on a aussi la pâte à tartiner, donc 70% de noisettes sans sucre ajouté à base de diacone, qui est très gourmande, etc. Et donc, les gens nous remerciaient parce qu'ils nous disaient merci d'avoir lancé un produit qui est super sain, parce que moi, j'avais totalement arrêté de consommer de la pâte à tartiner. J'avais totalement arrêté de consommer des sucres. Donc, soit par rapport à une pathologie, soit par rapport à cette société de régime dans laquelle on essaie de nous mettre avec tous ces produits allégés. Et avec vous, j'ai confiance parce que c'est naturel, parce que je sais qu'il n'y a pas de sucre dedans ou très peu, très très peu de sucre. Et ça me permet de reprendre goût aux aliments interdits, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et puis sur Instagram aussi, moi je suis très active sur Instagram. Il y a parfois des clientes qui se confient aussi et qui disent, qui nous remercient par rapport à ça. Et ça, c'est hyper gratifiant parce que moi qui étais dans cette situation
bah oui.
Il y a 15 ans, je sais à quel point c'est difficile de guérir de ces maladies. Et même, franchement, j'ai envie d'englober plus de monde là-dedans. C'est vraiment ce système régime, quoi. Sortir de ce système régime et penser l'aliment comme quelque chose de très bon pour notre santé et d'important pour notre santé. Ça, on le propose avec le sirop diacone et nos pâtes à tartiner.
Ouais, c'est ça. Et pas juste penser les aliments comme... de mettre les aliments dans des cases, bon, pas bon, et d'être dans la restriction en permanence, quoi. Là,
Ouais.
c'est vraiment l'idée de dire c'est sucré, c'est gourmand, ça fait plaisir, et en même temps, c'est bon pour vous.
Ouais. D'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai une anecdote parce qu'on fait beaucoup de dégustations. Dès qu'on peut, on va dans les magasins bio où on est référencé pour faire goûter nos produits. Et il y a beaucoup de personnes, dans un premier temps, ils passent devant notre stand et ils disent « Ah non, 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 moi, je ne consomme pas de sucre. Et je ne consomme pas de pâte à tartiner. » Parce qu'ils pensent tout de suite au Nutella, etc. Et nous, on leur dit « Non, non, mais justement, ce n'est pas du sucre. » Et là, du coup, ils viennent vers nous, ils disent « Ah, bah du coup, ça m'intéresse, est-ce que je peux goûter ?»« Ah bah oui, c'est super gourmand en plus. » Ah bah, et même des gens qui goûtent le sirop diacone, ils disent « Ah, mais ça a un goût sucré !» Oui, oui, ça a un goût sucré, mais sans sucre, quoi. Et du coup, ça aussi, c'est gratifiant parce qu'on voit dans leur regard une sorte de lueur d'espoir, si j'ose dire.
Ouais.
Ils avaient totalement arrêté tous ces produits qui sont très caloriques et très sucrés pour perdre du poids ou parce que justement ils ont bien compris, ils ont eu le déclic de savoir que le sucre n'était pas sain et avec nos produits ils peuvent donc redécouvrir ce plaisir du
faire plaisir sucré. Ouais c'est ça,
c'est chouette.
Et du coup toi quel conseil tu souhaiterais donner à toutes celles qui nous écoutent et qui se reconnaissent sûrement dans ton histoire Qu'est-ce que tu as envie de transmettre, toi, avec ta marque et avec cet épisode aussi, celles et ceux qui nous écoutent ?
C'est toujours très difficile de donner des conseils à des personnes qui sont en plein dedans parce que, en fait, je pense que chaque personne est vraiment très, très singulière et a ses propres bagages, en fait. Mais je dirais déjà deux choses. Je dirais déjà, la première étape de la guérison, c'est de réussir à en parler ouvertement. Et rien que de réussir à en parler, même si vous n'en êtes pas totalement sorti, ça va déjà faire, je pense, bien 50 ou 60% du taf dans la guérison. Je l'ai constaté, moi, avec une très bonne copine avec qui j'étais même en coloc. Et j'ai rien vu venir. Elle était... Alors, moi qui disais tout à l'heure au début de l'épisode que j'avais un radar pour ça, bah là, avec elle, j'ai rien vu venir.
T'es passée sous le radar ?
Complètement. Elle était hyper discrète. Et elle m'a dit, du coup, 4 ans plus tard, en fait, ça fait 4 ans que je suis tombée dedans, que je suis boulimique, etc. Et en fait, le fait qu'elle commence à en parler, elle m'a dit, déjà, je me sens mieux.
Ouais.
Et déjà, je me sens, désolée pour le franglais, accountable. Je suis, en gros, quand le fait de le dire aux autres, ça permet d'avoir un entourage qui est au courant du souci et qui est là pour nous. Enfin, normalement, c'est l'effet que ça fait aux personnes qui nous aiment vraiment. C'est qu'ils sont là pour nous et qui nous demandent comment ça va en ce moment. Avant qu'on en parle, personne ne nous demande comment ça va. Tout le monde pense que c'est normal. Oh, elle a fait un petit régime, c'est pas grave, elle a perdu quelques kilos.
Ça lui va bien.
Voilà, c'est ça. Alors, du coup, si les gens le savent, ils vont éviter de dire « Ah, t'as pris un peu de poids, ça te va bien. Ça, c'est vexant. » Et l'inverse aussi. Ils vont éviter de mentionner le poids en général. Je pense que c'est assez nocif de parler du corps des gens qui nous entourent. Je pense que ça peut participer aux troubles qu'on peut avoir avec l'alimentation. Ça, c'est le premier conseil que je donne. Et le deuxième, c'est, je pense que déjà, il faut reprendre confiance en l'alimentation. Et peut-être que pour reprendre confiance, la bonne méthode, c'est déjà de consommer des aliments que l'on sait qui nous apportent beaucoup de bien. Donc, oui, certes, ça n'a pas beaucoup de calories, Mais si vous voulez consommer un peu plus de légumes, vous faire des belles ratatouilles, etc., bah c'est peu calorique, c'est super sain, il y a plein de vitamines. Si vous voulez reprendre goût au sucre, mais vous voulez quand même pas consommer du sucre, le sirop d'iaconne est une bonne alternative qui est aussi très bonne pour le microbiote et pour la santé en général. En fait, je pense qu'il faut voir les aliments plus comment tel et tel aliment peut nous servir dans notre santé en général, et pas comme des... Parce que l'alimentation peut être rapidement vue comme juste des calories, quoi.
Ouais,
Donc,
au lieu de diaboliser, il faut le voir dans l'autre sens, quoi.
voilà.
Qu'est-ce que ça peut m'apporter?
Exactement. Et puis souvent, par exemple, souvent les personnes qui font attention à leur corps et donc aux aliments qui se mettent dans l'assiette, c'est aussi des gens très sportifs. Et ben, typiquement, on peut aussi avoir un déclic du type, ben voilà, comme je suis très sportif, j'ai envie d'avoir des bonnes performances sportives, peut-être que je prépare un marathon, peut-être que je prépare des courses à pied ou je ne sais pas quoi, j'ai besoin d'énergie pour que mes performances soient bonnes et pour que j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin de consommer des aliments qui sont riches en protéines, qui sont faibles en sucre, parce que le sucre aussi, c'est un élément qui peut diminuer les performances sportives dues, comme j'ai expliqué tout à l'heure, au pic de glycémie suivi des rechutes, les fameuses rechutes. Quand on est en course à pied, par exemple, il y a de plus en plus de personnes qui consomment plutôt des aliments riches en gras comme source d'énergie, parce que c'est moins rapide que les sucres qui sont trop rapidement digérés. Et en fait, finalement, on a besoin de reconsommer un truc super sucré toutes les 30 minutes et c'est quand même mauvais pour le corps en général. Donc voilà, il faut vraiment penser à l'aliment plus comment est-ce peut il me servir, comment est-ce qu'il peut me servir au quotidien dans ma vie de tous les jours, plutôt que diaboliser et de se dire tout est interdit, quoi.
Ouais, c'est
Voilà.
ça. Et d'être frustré au bout du
Oui.
compte.
Oui. Parce que la frustration, c'est ça qui fait que souvent on se jette.
Ouais, c'est le craquage assuré, quoi.
Voilà. Donc, les fameux régimes, ce que j'appelle les régimes yo-yo, c'est-à-dire, ben, c'est des régimes qui vont nous dire vous n'avez que manger des carottes râpées pendant une semaine, vous allez perdre
Ouais.
10 kilos, vous n'en faites pas, ça va être extraordinaire. Bah, du coup, les gens se disent, ah, génial, en une semaine, je vais perdre 10 kilos. Enfin, 10 kilos, j'exagère peut-être un peu, mais bon, voilà. En tout cas, perdre des kilos rapidement, donc je le fais. Mais en fait, il y a toujours un craquage derrière. Donc,
Ouais.
je pense qu'il ne faut pas exclure des aliments. Il faut peut-être plus diversifier son assiette. Et voilà. Mais il ne faut pas s'interdire des choses, sinon, c'est sûr qu'on va retomber dans un autre extrême.
Ouais, totalement d'accord avec toi. Super, ben on va finir avec la petite question traditionnelle du podcast. Quel sujet féminin tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui, selon toi, est encore trop tabou?
Ce qui serait hyper intéressant, je pense, c'est de faire venir un ou une spécialiste, je ne sais pas si ça existe, spécialiste de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le body positive, c'est quelque chose qui ressort de plus en plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut s'accepter tel qu'on est, et ça, je trouve cette trend absolument super, parce que du coup, on voit sur Instagram des femmes avec des corps différents qui sont la réalité terrain. Enfin, je veux dire, on est tous toutes différentes, mais que d'un autre côté, ce qui permet le plus à des marques de vendre leurs produits, c'est quand il y a écrit en gros moins calorique, diététique, etc. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez étrange. C'est qu'à la fois, tout le monde est content d'avoir ce côté body positive, mais d'un autre côté, tout le monde tombe quand même dans les aliments diététiques,
Ouais,
recherche toujours à diminuer ses calories,
cherche à
recherche
être
toujours à perdre du poids.
différent. Ouais, je suis d'accord.
Donc avoir un espèce de débat là-dessus, ça serait hyper intéressant de comprendre un peu pourquoi les régimes sont encore aussi vendeurs alors qu'on est dans une société aujourd'hui où tout le monde a envie de s'accepter voilà.
C'est vrai, et d'ailleurs, je trouve que ces marques, moi, j'y crois jamais beaucoup parce que je trouve qu'il y a un côté un petit peu... hypocrite, tu
Oui.
sais, c'est vachement surfer sur la tendance, montrer une ou deux femmes un peu rondes et encore sur une affiche et
Ouais.
s'arrêter là sans forcément soit y croire profondément, soit vouloir vraiment faire changer les choses, quoi. Aujourd'hui, quand on regarde la Fashion Week, les corps restent toujours les mêmes, quoi.
Oui,
Donc
c'est exactement
effectivement,
ça.
il n'y a peut-être pas assez de cohérence, je trouve, dans ces discours. Et du coup, on est toujours encore très partagé.
Ouais, totalement. Et ça, je pense que c'est un sujet hyper intéressant à
aborder. Mais ouais, bon, y a beaucoup de sujets hein, autour de l'acceptation de soi, rapport à l'alimentation, etc. En tout cas, ouais, très bonne idée que je prends. Merci beaucoup, Raphaëlla. Merci pour ton histoire. Je mettrai toutes les informations dans la barre d'infos du podcast. S'il y en a qui veulent te contacter sur Instagram, qui veulent tester la pâte à tartiner, le sirop, voilà, tout est dans la description. Et je Super. Te dis à très bientôt, alors.
Merci, Clarisse.
J'espère que cet épisode vous a plu. Un grand merci pour votre écoute. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute dès que vous avez un petit moment. Vous pouvez également me laisser un commentaire ou me contacter directement sur le compte Instagram hystérique.podcast pour partager votre histoire et à votre tour, libérer la parole. Je vous dis à la semaine prochaine.